Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous signale d'abord un léger changement dans le programme du séminaire et puis un problème un peu plus sérieux. Le changement s'agit de ma propre intervention, le 4 avril. Je m'étais originalement proposé de parler de la tension entre la liberté et l'esclavage dans les deux assemblées. Mais à la réflexion, il m'a paru plus intéressant d'opposer l'égalité affichée dans les deux assemblées à l'inégalité que représentait non seulement la persistance de l'esclavage dans la France révolutionnaire comme aux États-Unis, mais aussi les restrictions aux droits de suffrage. Le problème un peu plus sérieux concerne le séminaire du 25 avril, qui, je viens de l'apprendre, est le lundi de Pâques. Donc, on va voir avec le professeur Tschochnet s'il peut peut-être venir parler le 26 ou un autre jour qui lui convient dans cette période. Je crains qu'il n'ait déjà acheté son billet. On verra bien et on vous tiendra bien sûr au courant. C'était une bêtise de ma part. Aujourd'hui, donc, nous allons écouter Michel Tropper, professeur émérite de l'Université de Nanterre, nous parler du droit de veto dans les deux assemblées et dans les deux constitutions. J'ai eu l'occasion de lire les notes qu'il avait préparées pour son exposé, ce qui facilitera ma tâche de commentateur. En introduction, je voudrais faire simplement quelques observations générales sur l'idée d'un droit de veto. Il convient notamment, je pense, de distinguer les décisions prises à l'unanimité de celles qui sont soumises à un veto. Il est clair que lorsqu'une décision doit être prise à l'unanimité, chaque membre du groupe possède un veto. Or, l'inverse n'est pas vrai. Considérons par exemple l'article 5 de la Constitution des États-Unis. Je ne vais pas lire tout l'article, il faut surtout lire la dernière phrase, qu'aucun État ne soit sans son consentement privé de l'égalité de suffrage au Sénat. Donc, cet article donne à chaque État un veto sur sa représentation au Sénat. Or, pour réduire la représentation d'un État au Sénat, il suffit que celui-ci y consente et que les autres clauses de l'article exigeant des majorités de 2/3 et de 3/4 soient satisfaites. Aujourd'hui, avec le nombre d'États égal à 50, on pourrait donc prendre cette décision par le vote de 38 États. Le concours de tous les États n'est pas requis, donc il y a veto sans exigence d'unanimité. Ce cas offre deux particularités. D'une part, le veto ne concerne qu'une décision précise. Il existe aussi le veto tous azimuts qui donne à un acteur politique le droit de bloquer un projet dans quelque domaine que ce soit. D'autre part, à propos d'une décision précise, le veto n'est accordé qu'à l'acteur directement concerné. Dans d'autres cas, n'importe quel acteur peut bloquer la décision. On peut ainsi distinguer les cas suivants. Selon celui qui exerce le veto et selon l'objet sur lequel il porte. Et je viens d'offrir l'article 5 de la Constitution des États-Unis comme un exemple du premier cas. Pour le second cas, on trouve un exemple dans les articles de la Confédération qui réglèrent les rapports entre les 13 États américains avant l'adoption de la Constitution en 1789. Dans un certain nombre de domaines, le Congrès continental, comme s'appelait l'Assemblée de la Confédération, pouvait prendre certaines décisions à la majorité de 9 États sur 13. C'était le cas, par exemple, pour l'adhésion d'un nouvel État à l'Union. Dans les affaires mineures, on décida à la majorité simple, 7 États sur 13, mais concernant l'amendement des articles mêmes de la Confédération, chaque État avait un droit de veto. L'unanimité était nécessaire. On peut également considérer dans cette optique les décisions qui, dans l'Union européenne, doivent être prises à l'unanimité. Bien que le champ de l'unanimité se rétrécisse constamment, certaines décisions clés en matière d'impôts, de politique sociale, de défense et de politique étrangère y restent encore soumises. Le troisième cas de figure est observé lorsqu'un acteur politique, comme un président ou un monarque, possède un veto formel sur les lois. Dans certains systèmes bicaméraux, la Chambre haute a également un veto absolu sur les lois. L'histoire politique de l'Angleterre montre pourtant que ces vétos risquent de devenir lettre morte dans le cours du développement démocratique. Depuis 1707, le monarque anglais n'a jamais utilisé son droit de veto. Le veto de la Chambre haute fut affaibli dès 1712 suite à la décision de la reine Anne de nommer de nouveaux lords qui donneraient une majorité à la décision qu'elle souhaitait voir adoptée. Et cet exemple, que je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire, est aussi intéressant du point de vue conceptuel. Il montre que l'identité des acteurs est souvent un enjeu et non seulement une donnée de la politique. Si une institution A est supposée contrôler un acteur B, par exemple par un veto, et qu'en même temps B est en mesure de nommer les membres de A, le système de décision collective peut dégénérer. Ce fut le cas pendant de longues périodes de l'histoire des États-Unis, quand le président, avec l'appui du Congrès, essayait, et souvent avec succès, de manipuler le nombre de juges de la Cour suprême. Enfin, pour le quatrième cas de figure, le liberum veto polonais offre un exemple historique célèbre, dans lequel tous les acteurs avaient un droit de veto sur toute décision. Entre 1662 et 1764, la diète polonaise, le Sejm, fit dissoute de très nombreuses fois et souvent à la suite d'un seul vote opposant. Selon Rousseau, ce veto aurait plutôt dû s'exercer selon la deuxième modalité plutôt que selon la quatrième. Le libre veto serait moins déraisonnable s'il tombait uniquement sur les points fondamentaux de la Constitution, mais qu'il ait lieu généralement dans toutes les délibérations des diètes, c'est ce qui ne peut s'admettre en aucune façon. Je sais que Michel Tropper va nous parler des deux formes du veto partiel que sont le veto suspensif et le veto qualifié. Mais je tenais à vous signaler que l'on peut aussi donner deux autres sens à l'idée d'un veto partiel, celui d'un veto limité à certains sujets et celui d'un veto limité à certains acteurs. Et je reviendrai là-dessus dans mes commentaires sur l'exposé. Donc je donne la parole à Michel Tropper.
Bien, merci beaucoup. Je voudrais commencer par signaler que le titre, la rubrique générale, regard croisé, ne convient pas très bien pour l'exposé que je vais faire, parce que il n'y a pas eu de véritable regard croisé dans cette affaire. Évidemment, les Américains n'ont pas regardé vers une constitution, une assemblée constituante qui n'existait pas encore. Et au moins sur ce point-là, les Français, en 1789-90, ont très peu cité les exemples américains, mais davantage l'Angleterre. Donc c'est plutôt une comparaison à laquelle je vais me livrer qu'à une analyse des regards croisés. Mais cette comparaison est difficile pour plusieurs raisons, parce que je vais parler bien entendu du veto du pouvoir exécutif et non pas de toutes les autres formes du veto dont Jon Elster vient de parler. Donc quand on veut comparer le veto du pouvoir exécutif, on compare en réalité et on peut comparer plusieurs objets différents. Soit le pouvoir qui est effectivement accordé par les deux constitutions au pouvoir exécutif de s'opposer à des textes adoptés par le corps législatif. Soit comparer les arguments qui ont été employés par les députés ou les membres de l'Assemblée constituante, soit au cas où ces arguments ne reflèteraient pas les causes réelles, comparer les causes qui ont conduit à adopter des solutions. Et il est très possible que, en effet, ces trois objets ne coïncident pas. Par exemple, il est possible que Dans un des cas, et c'est ce que certains historiens ont prétendu, François Furet par exemple, il est possible que dans l'un des cas au moins, le veto du pouvoir exécutif ne soit pas un véritable pouvoir de s'opposer, mais simplement une apparence de pouvoir. D'autre part, il est concevable que les arguments qui ont été adoptés et employés par les constituants reposent sur une méconnaissance de la part des constituants de la nature réelle du droit de veto. En d'autres termes, que les constituants ignorent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, il est possible que les arguments soient trompeurs pour d'autres raisons, soit qu'ils ne soient pas sincères, soit qu'il y ait des causes profondes dont les constituants sont inconscients. D'autre part, la comparaison est difficile aussi entre la Convention de Philadelphie et l'Assemblée constituante parisienne, enfin versaillaise et puis parisienne, pour des raisons qui sont des raisons conjoncturelles. Les conditions de la délibération sont différentes. Dans un cas, on a une assemblée très réduite à Philadelphie qui siège, je crois, à huis clos. Dans l'autre cas, au contraire, on a une assemblée de 1200 personnes qui est entourée ou avec, qui délibère en public avec des foules et des réactions de l'opinion publique parfois extrêmement menaçantes. Et puis, aux États-Unis, les discussions sur le veto s'inscrivent dans un contexte qui porte sur les relations entre l'État fédéral et les États membres. Par exemple, on a envisagé un moment qu'il y ait un veto, et le terme a été employé dans ce cas-là, qu'il y ait un veto du Congrès sur les lois des États. Tandis qu'évidemment, le problème du fédéralisme ne se posait pas en France. Il y a aussi le fait qu'avait signalé Pasquale Pasquino l'autre jour, qu'en France, on faisait une révolution, tandis qu'aux États-Unis, on ne se souciait pas de bouleverser les structures sociales. De même, le contenu, le style de la délibération est très différent dans les deux cas, parce qu'en France, on vient d'adopter une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on invoque des théories constitutionnelles extrêmement complexes. On fait appel à des notions comme souveraineté, représentation, etc. Tandis que ce n'est pas le cas, semble-t-il, aux États-Unis. Tout juste par le temps, et on parle en effet de séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs est une thèse d'une autre nature que la thèse sur la souveraineté. Je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. Il y a aussi, bien entendu, des difficultés, alors qui ne tiennent pas spécialement à la comparaison, mais qui tiennent à l'analyse de toute délibération constitutionnelle. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si les arguments sont sincères. On ne sait pas si les arguments correspondent aux raisons véritables qui poussent à adopter telle ou telle mesure. On ne sait pas si les arguments qui sont formulés par quelques orateurs reflètent ou non les opinions de tous ceux qui ne prennent pas la parole mais qui votent. Et à supposer que les arguments soient sérieux, on rencontre le problème très difficile de l'implication. Supposons par exemple un orateur qui soutienne que la théorie de la représentation, telle théorie de la représentation, implique le refus du veto. Faut-il conclure qu'il refuse le veto parce qu'il adhère à cette théorie de la représentation, ou au contraire qu'il ne veut pas du veto pour des raisons qui sont des raisons pratiques ou politiques, mais qu'il justifie ce refus du veto en brandissant une théorie de la représentation. Bien sûr, quand il présente les choses dans son discours, il énoncera d'abord la théorie de la représentation et puis il en déduira le refus du veto. Mais l'ordre dans lequel il présente les choses ne reflète évidemment pas la réalité d'une implication. Et donc nous avons deux façons d'interpréter son argument et nous n'avons aucun moyen de choisir entre ces deux interprétations. Alors, je voudrais simplement adopter là quelques conventions avant de commencer la discussion. Et les conventions sont d'abord des conventions de vocabulaire. Je ne parle que du veto du pouvoir exécutif, bien que ce terme ne soit pas toujours employé. Dans les débats, par une espèce de pudeur, on évite, dans les débats et d'ailleurs dans les textes des constitutions, on évite le mot veto et on parle de sanction, de refus de la sanction, de consentement, de refus du consentement, mais on n'utilise pas le mot veto et dans les débats même, on ne l'utilise pas toujours. Et quand on regarde les tables, par exemple, de l'Assemblée constituante dans les archives parlementaires, eh bien, il faut tantôt se reporter au mot veto, tantôt au mot sanction. Dans les débats à la Convention de Philadelphie, il s'agit tantôt de veto, tantôt de négative. D'autre part, le droit de veto est appelé suspensif en France, au cours des débats. Il est appelé aux États-Unis, quel est le terme qu'on utilise déjà, je ne sais plus, qualified plutôt que partiel. Alors je vais utiliser un terme générique précisément pour pouvoir faire la comparaison et je parlerai moi de veto partiel pour le distinguer du veto absolu, c'est-à-dire le pouvoir de s'opposer sans aucune condition à un texte qui a été voté. Le veto que j'appelle partiel, c'est le veto qui permet de s'opposer soit pendant un certain temps, soit un veto qui peut être levé par un vote à une certaine majorité dans les assemblées parlementaires. Dans le cas des États-Unis, on sait que c'est la majorité des deux tiers dans chaque chambre. Donc, veto partiel. Avant de discuter de la question de savoir quels sont les arguments qui ont pu triompher et des raisons qui ont conduit à ce triomphe, je crois qu'il faut dire un mot de la nature même de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a véritablement donné, dans les deux cas, un pouvoir de s'opposer au texte présenté, adopté par les assemblées parlementaires. Et avant cela, il faut examiner si le droit de veto relève du pouvoir législatif ou relève du pouvoir exécutif. Les deux questions, la question du rattachement à l'une des ou l'autre des grandes fonctions et la question de la réalité du pouvoir de veto, ces deux questions ont été posées aussi bien dans les débats, au cours des débats, que dans la théorie du droit et dans l'histoire constitutionnelle et même dans l'histoire générale. Alors, le veto relève-t-il du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif? À vrai dire, aujourd'hui, le débat a un peu changé. On n'a guère contesté la nature législative du droit de veto lorsqu'il s'agit du veto absolu, mais on a pu le contester parfois lorsqu'il s'agissait du veto suspensif. La question était importante parce qu'on invoquait le principe de la séparation des pouvoirs. Et tous ceux qui estimaient que la séparation des pouvoirs signifiait la spécialisation des autorités, tout cela devait dire ou bien que la séparation des pouvoirs interdisait que l'on confiât un droit de veto au pouvoir exécutif, ou bien qu'il s'agissait d'une exception rendue nécessaire pour que les choses puissent fonctionner. Alors, on a utilisé pour discuter cette question une distinction que l'on trouve dans Montesquieu et qui a été utilisée aussi, invoquée plusieurs fois et discutée et contestée à l'Assemblée nationale en France, entre faculté de statuer et faculté d'empêcher. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans le détail de la discussion sur cette distinction même, mais ceux qui soutiennent que le droit de veto n'est pas une participation au pouvoir législatif disent ce n'est pas un droit de statuer, c'est seulement un droit d'empêcher, et Montesquieu fait bien la différence. Bon. En réalité, je résume ici ce que je crois être l'interprétation correcte de cette distinction chez Montesquieu. Faculté de statuer signifie seulement la faculté de faire tout seul les lois. La faculté d'empêcher, c'est participer, mais celui qui participe par la faculté d'empêcher n'en participe pas moins. Il détient néanmoins une partie du pouvoir législatif. Donc, cela veut dire que celui qui a un droit de veto absolu ou suspensif, d'abord dans le cas du veto absolu, dispose d'un pouvoir de nature législative. Donc, cela veut dire ou bien qu'il s'agit d'une exception à la règle de la séparation des pouvoirs entendue comme système de spécialisation, ou bien que la règle de la séparation des pouvoirs doit être comprise autrement et n'implique aucune spécialisation. Alors, ce que je viens de dire pour le veto absolu vaut aussi pour le pouvoir législatif, pour le droit de veto partiel. Dans le système américain, on a rarement contesté qu'il s'agissât d'une règle, d'une participation au pouvoir législatif. Et en effet, le président qui peut s'opposer à une loi modifie les règles de la procédure législative. Et puisque on ne peut adopter cette loi malgré son opposition qu'à la majorité des deux tiers dans les deux chambres, et donc ce pouvoir-là, en tout cas, quelle que soit son étendue, et elle est en réalité considérable, quelle que soit son étendue, ce pouvoir-là ne peut pas être considéré comme une variante de l'exécution. Ça ne se rattache pas à l'exécution. Dans le cas français, alors, on sait que François Furet, notamment, il n'est pas le seul. François Furet s'appuie sur Karine Malberg sur ce point, mais aussi Keith Baker, de façon un peu moins nette, conteste que le veto suspensif qui a été accordé au roi dans la Constitution de 1791 fut une participation au pouvoir législatif. On disait que dans la mesure où le roi, en suspendant, en empêche l'exécution pendant un certain temps, ce serait donc une forme de... où ça se rattacherait davantage au pouvoir exécutif. Alors ceci, à mon avis, n'est pas admissible. Une norme juridique, quelle qu'elle soit, se définit par certains caractères, ses destinataires, et les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, et à partir du moment où elle doit être appliquée. Donc, déterminer le moment de l'application, c'est être co-décideur de la norme. Donc, à mon avis, le droit de veto partiel est un acte de la... est une participation, et incontestablement une participation à la fonction législative. Entre parenthèses, les raisons pour lesquelles des historiens comme François Furet ou Keith Baker ont contesté que le veto suspensif fût un véritable pouvoir, c'est que il s'attachait à démontrer que l'Assemblée nationale s'était engagée dans la voie de la démocratie dès l'automne 1789. Et pour soutenir cette idée, il fallait prétendre que l'Assemblée voulait conserver la souveraineté et le monopole du pouvoir législatif et qu'ils n'ont donné au roi qu'une apparence de pouvoir avec ce veto suspensif. Et il s'appuie, et Karine Malberg soutient la même idée pour d'autres raisons, s'appuie à la fois sur certains discours, mais seulement certains discours, et il s'appuie aussi sur un fragment de la Constitution qui est celui-ci. La Constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après, proposer et décréter les lois. Le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération. Il me semble que cet argument est défectueux. En effet, décréter les lois ne signifie pas, contrairement à ce que Karine Malberg croit ou feint de croire, ne signifie pas adopter les lois. Décréter les lois veut dire adopter un texte qui portera le nom de décret et qui deviendra ultérieurement une loi lorsque le roi aura donné son consentement. Et d'ailleurs, la Constitution de 1791 est extrêmement claire et explicite sur ce point. Les décrets adoptés par l'Assemblée nationale ne prennent le nom de loi qu'après avoir reçu le consentement du roi. D'autre part, je rappelle qu'au cours du débat du 10 août 1792, c'est-à-dire à la fin des travaux, au moment de l'opération dite révision de la Constitution, quand il s'est agi d'accorder ou non au roi le titre de représentant, l'Assemblée a répondu par l'affirmative à la suite d'un discours de Barnave, dont la démonstration était extrêmement simple. faire la loi, c'est participer à l'expression de la volonté générale, comme il avait été dit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous ceux qui participent à la formation de la loi sont donc des représentants parce qu'ils contribuent à exprimer la volonté générale. Le roi participe à l'exercice de la volonté générale, à l'expression de la volonté générale, donc il est représentant. Et ce raisonnement avait emporté l'adhésion. Donc on a reconnu au roi la qualité de représentant parce qu'on lui avait accordé le pouvoir, enfin une participation au pouvoir législatif. Et puis, dernier argument, évidemment, pour montrer que le veto suspensif est un pouvoir très réel, permet de retarder pendant une durée comprise entre 4 et 6 ans l'entrée en vigueur d'une loi, c'est naturellement qu'en cas d'urgence, en cas de réforme qui est ardemment souhaitée par une grande majorité, attendre 6 ans, c'est intolérable, et surtout dans une période révolutionnaire. Et la seule fois où Louis XVI a osé employer son droit de veto, ce pouvoir était tellement réel qu'il a fallu un coup de force pour surmonter son droit de veto, et ça a été d'ailleurs le commencement de la fin du régime. Alors, s'il en est ainsi, si c'est un droit de veto, si c'est un pouvoir réel, quels sont les arguments, et est-ce que ce sont les arguments qu'on a employés qui ont conduit à prendre cette décision d'inscrire le droit de veto suspensif dans la Constitution, si ces arguments ne sont pas suffisants, quelles sont les raisons de fond qui devait rendre les députés sensibles à ces arguments. Alors, les arguments, c'est mon deuxième point, les arguments qui ont été employés aux États-Unis et en France, et encore une fois, je vais éliminer tous ceux qui tiennent à des circonstances particulières de temps et de lieu. Il y a naturellement toutes sortes d'arguments qu'on utilise, par exemple en France, tout le monde dit le droit de veto c'est magnifique parce que on n'a rien à craindre d'un roi qui est si sage, si bon, le meilleur roi qu'on ait jamais eu depuis Henri IV. Alors il y a ces arguments qu'il faut naturellement éliminer. Il y a aussi des arguments, puisque nous cherchons ici à avoir quelque chose qui transcende un peu les époques, il y a des arguments qui sont très très datés, par exemple l'appel à Dieu ou l'appel à l'autorité des grands philosophes ou à l'appel à la tradition qui remonterait au Moyen-Âge, etc. Et puis des arguments qui sont des arguments que nous avons du mal à comprendre aujourd'hui, par exemple le droit de veto du roi nous protégera des mauvaises lois, mais il n'empêchera pas les bonnes lois. Et c'est un genre de discussion dans lequel nous avons du mal à entrer parce que nous ne savons pas aujourd'hui ce que c'est qu'une bonne loi et ce que c'est qu'une mauvaise loi. En tout cas, nous n'avons pas de critères certains pour déterminer les choses. Alors, je voudrais distinguer deux types d'arguments, des arguments que j'appelle théoriques et des arguments que j'appelle pratiques. Les arguments théoriques, ce sont ceux qui ne visent pas à montrer les avantages que l'on va retirer du droit de veto ou de telle ou telle solution, mais qui visent à montrer que ces solutions sont conformes à des principes réputés incontestables, comme la souveraineté nationale, comme la représentation, la démocratie, etc. Ces arguments théoriques sont utilisés de façon très différente aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, ils sont presque pas utilisé. Il y a surtout des arguments de type pratique, j'y reviendrai tout à l'heure. Par exemple, le mot souveraineté, on regarde l'index des travaux préparatoires de Philadelphie, le mot souveraineté n'apparaît presque pratiquement pas, et il est utilisé surtout à propos de la souveraineté des États. Mais la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple sont des notions qui n'interviennent pas. Les notions qui interviennent, les grandes, ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes théories, c'est la séparation des pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs, précisément, c'est un principe pratique. C'est une règle d'ingénierie, et c'est dans ce contexte que je l'examinerai tout à l'heure. Donc en France, le niveau d'abstraction est beaucoup plus élevé. Peut-être parce qu'on vient de voter la déclaration des droits, peut-être parce que, en effet, ce qu'on est en train de constituer, c'est l'ensemble de la société, et de très nombreux discours commencent par des déclarations, des grandes fresques. On commence au déluge, ou en tout cas on remonte très très facilement au Moyen-Âge, on développe des théories du contrat social, on se réfère aux grands philosophes de l'Antiquité. Bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile de savoir si ces principes que l'on invoque, on les invoque parce qu'ils permettent de justifier par avance les conclusions auxquelles on veut aboutir, ou bien parce qu'il s'agit vraiment de thèses a priori dont on peut tirer des conséquences pratiques. Alors, cela dit, quels sont ces principaux arguments théoriques ? Contre le veto, on trouve, et là je suis malheureusement obligé de m'en tenir à quelques exemples, mais qui montrent précisément l'ambiguïté de ces arguments et la difficulté de les voir comme porteurs d'implications. Sieyès dit « Le roi ne fait qu'un avec la nation. » Et par nation, il entend ce qu'il appelle aussi la représentation nationale, c'est-à-dire le corps législatif. Et comme le roi ne fait qu'un avec la nation, le veto serait une lettre de cachet contre la volonté nationale. Il ne faut pas séparer le roi de la représentation nationale et lui donner un intérêt différent, sous peine, dit-il, d'abaisser la majesté royale. Tout à coup, Sieyès, grand adversaire du veto, qui veut défendre la majesté royale. Donc on peut se méfier de la sincérité de Sieyès, il faut noter que sur la représentation, son argument est parfaitement réversible. Le veto ne serait pas un acte d'opposition à la représentation nationale si le roi était considéré lui-même comme un représentant de la nation. C'est précisément la thèse que Barnave défendra avec succès le 10 août 1791, mais Barnave n'est pas le premier à le dire. Mounier avait dit exactement la même chose dans son rapport au nom du premier comité de constitution. Le roi ne fait qu'un avec la nation, certes, mais parce qu'il représente la nation en exerçant conjointement avec les autres la souveraineté, c'est-à-dire en participant à l'expression de la volonté générale. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'après avoir fait tout ce grand discours de philosophie politique, Sieyès dit, bon, finalement, la question est en définitive de savoir si le veto est utile. Autrement dit, on va regarder les conséquences pratiques. Et donc, il conclut que le veto n'est pas utile et qu'on peut arriver au même résultat avec d'autres moyens, tandis que d'autres, sur le plan de l'utilité, arriveront à d'autres conclusions. Pour le veto, il y a aussi, naturellement, des grandes théories. Et la grande théorie, ce sera, par exemple, celle de Mirabeau. Le roi est représentant, dit-il, mais représentant en tant que pouvoir exécutif. En tant que pouvoir exécutif. Il le dit ainsi. La nation ne peut pas exercer elle-même ses pouvoirs. De là, la nécessité des représentants du peuple pour l'exercice de la faculté de vouloir ou de la puissance législative. De là encore, et c'est ça que je souligne, de là encore la nécessité d'une autre espèce de représentant pour l'exercice de la faculté d'agir ou de la puissance exécutive. Alors, comme le roi est représentant dans l'exercice de la puissance exécutrice, alors il faut, puisque selon Mirabeau, le droit de veto se rattache à la puissance exécutrice, il faut lui donner la plénitude de ce pouvoir. Mais finalement, lui aussi va s'en remettre à des arguments pratiques. Et la suite du discours est pratique. Alors, les arguments pratiques, quels sont-ils ? L'utilité. Et là, on arrive aux choses qui sont vraiment sérieuses. Pour le veto, il faut défendre que le pouvoir exécutif puisse se défendre contre les empiétements du pouvoir législatif. Et il faut ainsi préserver la séparation des pouvoirs. Si le pouvoir législatif n'était pas limité par le droit de veto, il s'emparerait du pouvoir exécutif, il y aurait confusion des pouvoirs, c'est-à-dire despotisme. C'est la définition même du despotisme. Et ces arguments pratiques, on les retrouve pratiquement identiques aux États-Unis et en France. On trouve ça chez Madison, dans le fédéraliste 51, on trouve ça chez Hamilton dans le fédéraliste 73, on trouve ça la même chose, on trouvait déjà cela à la convention de Philadelphie, c'est gouverneur Maurice qui dit cela. En France, on trouve ça chez Lalith Olindal, on trouve ça chez Mirabeau. Après ses arguments théoriques, il en vient aux choses sérieuses, et Mirabeau le dit avec très belle formule: je crois le veto royal tellement nécessaire que j'aimerais mieux vivre à Constantinople qu'en France s'il ne l'avait pas. Oui, je le déclare, je ne connaîtrai rien de plus terrible que l'aristocratie souveraine de 600 personnes qui demain pourraient se rendre inamovibles, après-demain héréditaires, et finiraient comme les aristocrates de tous les pays du monde par tout envahir. De la part de comte de Mirabeau, c'est très bien. Et il y a beaucoup de discours en ce sens chez les monarchiens, et même, et c'est ça qui est important, je crois, même les adversaires du veto reconnaissent qu'il y a un danger d'empiètement de la part du pouvoir législatif si le pouvoir exécutif n'a pas le droit de veto. Donc ils cherchent d'autres remèdes, ils sont hostiles au veto, mais le danger d'empiètement est bien perçu par tout le monde. Deuxième. Pratique parce qu'on vise à éviter certaines conséquences.
Parce que tu considères la théorie comme quelque chose qui n'a pas d'effet.
La théorie, c'est ce qui se réfère aux principes, dans ma définition. C'est ce qui se réfère à des principes dont on va déduire certaines choses. Mais bon, c'est une question de convention. Deuxième argument pratique, le veto améliore la qualité de la loi. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de délibérer. On aura pesé les conséquences, les avantages et les inconvénients de la loi. Et naturellement, plus la délibération est riche, et mieux ça va. Et puis, on peut ajouter que lorsque le corps législatif prépare une loi et lui donne un certain contenu, il sait que on pourra toujours opposer un veto. Et donc, il donnera par avance à la loi un contenu modéré. On anticipera le compromis en produisant, selon la métaphore célèbre de Harrington et des deux petites filles qui doivent se partager un gâteau. Et d'ailleurs, la Little Lindahl le dit très bien. Le veto n'est pas pour le roi, c'est un argument donc très différent du précédent, n'est pas pour le roi, mais pour l'intérêt de la nation. Le veto est la sauvegarde de nos droits et de nos libertés. Et d'ailleurs, c'est aussi une sauvegarde d'une autre façon qui se rattache à une certaine conception de la liberté, c'est qu'il sera difficile, plus le veto naturellement sera fort, et plus il sera difficile d'adopter des lois, et si on adopte peu de lois, eh bien tant mieux, parce que moins il y a de lois et moins notre sphère d'autonomie individuelle sera envahie. Quant aux arguments contre le veto, eh bien les arguments pratiques aussi contre le veto, mais les arguments c'est on a d'autres moyens. On n'a pas besoin de garanties externes. Cette expression de garantie externe reviendra très très souvent, et en France notamment en l'an 3. On n'a pas besoin de garanties externes parce qu'on peut trouver des garanties internes pour que le corps législatif n'envahisse pas tout. Alors, il y a plusieurs variantes, mais il faut que les députés soient élus pour un mandat de courte durée, qu'ils soient fréquemment que l'Assemblée soit fréquemment renouvelée, qu'elle soit renouvelée par portion, peut-être que les députés ne puissent pas être réélus, ou que la procédure législative comporte plusieurs lectures, ou dans certains cas qu'on puisse soumettre la loi à référendum. Enfin, il y a des techniques différentes. Aux États-Unis, par exemple, il y avait une autre technique. On proposait qu'il y ait un conseil de révision. Et ce conseil de révision serait composé de juges, ou en partie de juges, en partie, enfin, il y avait plusieurs variantes, en partie de juges, en partie de représentants du pouvoir exécutif. Donc, les arguments pratiques, ce sont les arguments pratiques qu'il a, semble-t-il, qui convainquent, et on vote séparément, et ça, c'est le cas ça a été le cas dans les deux assemblées, on a voté séparément sur le principe du veto, sans préciser s'il serait absolu ou pas, et puis dans un deuxième temps, sur le caractère partiel ou pas. Et on a fait ça dans les deux cas. Et en France, le principe du veto a été adopté à une très grande majorité. Le moniteur n'est pas plus précis que ça, une très grande majorité, mais ça devait être beaucoup parce que par la suite, le veto suspensif, c'était le deuxième vote immédiatement après, le veto suspensif a été adopté par 673 voix contre 325. Alors, ça me paraît déjà à moi une très grande majorité, mais celle qui s'est prononcée en faveur du veto, du principe du veto en général, devait être beaucoup plus grande encore, plus grande que les deux tiers. Quels sont les arguments pratiques maintenant pour le veto partiel? Alors là, C'est en partie les mêmes arguments que pour le veto absolu, mais en partie des arguments qui tendent à montrer que c'est supérieur au veto absolu. C'est bien mieux que le veto absolu. Et c'est par exemple Hamilton qui va finir par défendre cette position, alors qu'à l'origine, Hamilton était partisan du veto absolu. Il a dans le Federalist Papers, à la Convention, il était partisan du veto absolu. Dans le Federalist Papers, il défend le veto suspensif. Et l'idée, c'est que le veto absolu, c'est une arme tellement lourde qui pourrait provoquer tellement de troubles dans l'opinion publique que le pouvoir exécutif n'osera pas l'employer. Et il donne l'exemple de l'Angleterre, où il n'a pas été employé depuis 1706. Dit-il, cela incite, et c'est pervers, parce que cela incite le pouvoir exécutif à utiliser d'autres moyens que les moyens légaux pour s'opposer à des lois dont il ne veut pas, et c'est une incitation à la corruption des députés, par exemple. Alors, quels sont et c'est là-dessus que je voudrais terminer. À mon avis, si on a été sensible aux arguments des défenseurs du veto, ça n'est pas tellement à cause de la force des arguments, certainement pas parce qu'on a invoqué la souveraineté nationale ou la souveraineté populaire. C'est en effet en grande partie à cause des arguments pratiques, mais surtout parce que, compte tenu de la manière dont on se représentait les choses, il était difficile de trouver une autre solution que celle-là en 1789 et en États-Unis en 1787. Avant tout, je voudrais dire que je suis revenu sur quelque chose que j'ai dit l'autre jour quand j'ai fait une esquisse de ce que j'allais dire aujourd'hui. J'ai dit que dans les deux cas, il s'agissait d'un compromis. Et en effet, il s'agit d'un compromis si par compromis, on entend une solution moyenne entre deux solutions extrêmes, c'est-à-dire entre le veto absolu d'une part et pas de veto du tout, le veto que l'on trouve aux États-Unis et en France en 1791, c'est un compromis. En revanche, si le compromis, c'est une solution à laquelle on parvient au terme d'une négociation en cédant sur les positions que l'on avait à l'origine, alors là, à mon avis, il ne s'agit pas d'un compromis, parce que la majorité, ce n'est pas le cas de Hamilton, dans le cas d'Hamilton, oui, c'est un compromis. Mais la grande majorité des députés était favorable d'emblée à une solution qui était le veto partiel. Le veto partiel n'est donc pas une solution par défaut à laquelle on se résigne parce qu'on n'a pas réussi à faire aboutir la solution qu'on préfère, mais c'est la solution que l'on préfère d'emblée. Pourquoi ? D'abord, on ne pouvait pas renoncer à toute forme de veto. L'idée que le corps législatif doit être freiné découle tout simplement de la hiérarchie des fonctions. Et tout le monde a une conscience extrêmement claire de la hiérarchie des fonctions. Faire la loi et exécuter la loi ne sont pas sur le même plan, de sorte que si les organes sont spécialisés, alors le pouvoir exécutif se trouvera évidemment dans une position totalement subordonnée et le pouvoir législatif va tout envahir. Et ce système a deux inconvénients. Le premier, c'est que la Constitution sera autodestructrice. La répartition des pouvoirs à laquelle on aura procédé ne durera pas. Elle va immédiatement se détruire au profit du seul corps législatif. Or, ce qu'on cherche, c'est précisément à réaliser une constitution dont l'équilibre se préserve automatiquement, une constitution autorégulée. Donc, on irait à l'encontre de cet objectif. Deuxièmement, on cherche à obtenir une législation modérée. Une législation modérée, c'est une législation qui, d'une part, n'empiète pas sur les libertés civiles, et qui, d'autre part, la liberté civile, les libertés individuelles notamment, et la propriété, et qui, d'autre part, préserve certains intérêts minoritaires. Pour éviter que la Constitution ne s'autodétruise et que certains intérêts soient sacrifiés, il faut évidemment une balance des pouvoirs. Et une balance des pouvoirs, ça ne veut pas dire un équilibre entre législatif et exécutif, cela veut dire un équilibre entre plusieurs pouvoirs législatifs. D'un autre côté, il est clair que le veto absolu serait un pouvoir excessif, parce que, surtout dans le cas de la France, qui est en pleine transformation et où il va falloir voter des lois pour réformer la société, il faut éviter que le roi puisse s'opposer aux réformes. Donc, le droit de veto absolu serait excessif ou inutilisable, comme le montrait l'exemple anglais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus guère, je crois, que la constitution du Liechtenstein et celle de la Belgique qui laisse au chef de l'État un droit de veto absolu. Alors en Belgique, ils ne l'utilisent pas non plus, je ne crois pas qu'au Liechtenstein, on en fasse beaucoup d'usages non plus. En revanche, le danger de corruption du corps législatif n'est pas tout à fait absent dans ce pays, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors maintenant, la seule chose qui reste, donc il n'est pas étonnant que tout le monde se soit rallié à ça. Seul son partisan, véritable partisan de l'absence de veto, ceux qui sont partisans de la spécialisation des autorités, c'est-à-dire ceux qui sont partisans de la démocratie. En 1789, comme on sait, ils sont très peu nombreux, et ils sont très peu nombreux aussi aux États-Unis en 1787. On ne fait pas une démocratie, on fait une république. En France, on ne fait pas une démocratie, on fait un gouvernement représentatif. Donc, on ne veut pas de démocratie. Donc, dans les deux cas, on a évidemment un intérêt à refuser la spécialisation et à accorder au pouvoir exécutif un droit de veto. La seule chose qui reste à expliquer, c'est la raison pour laquelle on a choisi en France et aux États-Unis des formes de veto partiel techniquement différentes. Aux États-Unis, le veto qui peut être surmonté par une majorité des deux tiers. En France, le veto suspensif. Je ne suis pas absolument sûr de ce que je vais dire, mais j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est qu'aux États-Unis, lorsque le président oppose son veto à une loi, il compte s'allier à une minorité importante, dépassant le tiers, dans les deux chambres du Congrès. Il est légitime, dans la vision américaine, de protéger les minorités. Au contraire, en France, la minorité, je parle de 1789, la minorité n'est pas respectable en tant que minorité. Le souci principal est le souci de l'unité. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont minoritaires se sont trompés sur la volonté générale. Ils sont dans l'erreur. Et cette erreur, d'ailleurs, peut être condamnable et même criminelle. Donc, on ne peut pas donner au roi un pouvoir qui lui permettrait de s'allier ostensiblement avec une minorité, mais on va lui demander, on va lui permettre de suspendre pendant un temps. S'il suspend pendant un temps, alors il ne s'allie pas à une minorité, mais il agit au nom de la nation. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour la nation, comme disait Clermont-Tonnerre. Et il agit pour le bénéfice de la nation, comme représentant de la nation, en exprimant la volonté générale. Voilà.
Merci beaucoup, Michel Tropez.